Voilà, j'ai remis l'enregistrement en route et on peut continuer. Alors, où est-ce que j'en suis? Est-ce que l'écran est partagé? Non, alors je le partage. C'est ici, je pense qu'il faut que je le voie. Partager. En ligne, là, vous voyez mon écran? Bon, je pense. Bon, donc, je parlais d'approximation hydrostatique. Alors, du point de vue numérique, c'est un grand avantage. Bon, c'est une simplification physique. Ça élimine une équation pour le mouvement vertical. Oui, effectivement, si je l'ai pas dit de façon parfaitement explicite, mais si je fonde un modèle numérique sur ces équations-là, j'ai une équation pour la masse volumique, une équation, enfin pour la conservation de l'énergie, une équation scalaire, trois équations pour les trois composantes du vent, donc ce qui se fait, cinq équations à intégrer au cours du temps, cinq quantités fonction de l'espace et du temps dont je vais calculer l'évolution, et puis autant d'équations que de composants secondaires. Si de la direction verticale, j'ai ces deux termini sont égaux, ça élimine l'équation, elle élimine l'équation correspondante, pas d'équation. D'autre part, si je fais l'approximation hydrostatique, dans les coordonnées x, y, p, l'écoulement est incompressible. La masse contenue dans une couche d'épaisseur delta P, à pression, est proportionnelle à delta P. Donc, c'est incompressible. Ce qui supprime de fait l'équation pour la conservation de masse, parce que j'utilise la pression. Donc, mes équations de 3, de 5, sont des fournies à 3. C'est quand même, du point de vue de la mise en œuvre numérique, est un sérieux avantage. Alors là, l'approximation hydrostatique, je vous l'ai dit, je vous le disais à l'instant, est valide avec une impression de 10 puissance moins 4 pour des échelles horizontales de 20 à 30 km. Les gros cumulus, hein, je vous parlais des gros cumulus qui sont non hydrostatiques, les gros cumulus peuvent très bien avoir des dimensions de 10 à 15 km, hein, dans les basses latitudes, hein, c'est d'énormes. Mais il n'empêche que, par exemple, au centre européen de Reding, il continue à avoir un modèle à grande échelle dont la résolution est de 9 km et qui reste hydrostatique. Et qui reste, bon, alors évidemment, ils ont une représentation paramétrée de la convection, comme je le disais, mais il reste hydrostatique. Alors, des modèles non hydrostatiques sont utilisés pour la prévision à petite échelle et le temps. Par exemple, la Météo France un modèle ARROM non hydrostatique, ce qui évidemment est beaucoup plus coûteux et ne peut être utilisé aujourd'hui. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y ait, en prévision météorologique, de prévision non hydrostatique globale. Je ne sais même pas s'il existe des modèles non hydrostatiques globales, même à des fins de recherche. Bon. Alors oui, alors, si on utilise la pression P comme pression co-verticale indépendante, oui. Il est non hydrostatique. Et c'est un modèle global? Ah bon, moi je ne savais pas, très bien. D'accord, très bien. Bon, vous me l'apprenez, très bien. Pardon?
Par les modèles de résolution globale
Oui.
financée récemment. On a 7.
Oui, 7 km non hydrostatique, mais alors vous dites global ou. Ah oui, quel modèle? Le même que.
C'est des diamants. C'est
Diamond, oui, d'accord. D'accord.
parfois, mais à plusieurs des modèles, il y a des
D'accord.
modèles clés.
D'accord. Bah, vous, ça... vous en savez plus que moi. N'hésitez pas à me corriger si vous savez des choses que je dis. Bon, alors, sur l'approximation hydrostatique, le terme de gradient de P horizontal, ce terme-là, devient gradient de P à altitude donnée, devient gradient de géopotentiel à pression donnée. C'est facile à vérifier. Alors, ces modèles, il faut les discrétiser. Alors, il y a deux types de discrétisation spatiale. Il faut les discrétiser dans l'espace et dans le temps. Alors, il y a deux types de catégories de discrétisation spatiale. Il y a la discrétisation à point de grille et la discrétisation spectrale qui est en fait, il faut plutôt dire, semi-spectrale pour, comme je vous l'expliquais. Alors, une chose dont vous avez probablement entendu parler, qui est très d'utilité utilisée, c'est la discrétisation par éléments finis, qui permet en particulier de prendre en quelque sorte des mailles de formes très diverses, qui est très utilisée, par exemple, pour la modélisation d'écoulements autour d'ailes d'avion, d'écoulements industriels, où il peut y avoir une géométrie compliquée, et donc on ne peut pas avoir un maillage régulier. Bon. Dans l'atmosphère, ils ne sont quasiment pas utilisés. Par contre, pour l'océan, à cause de la forme géométrique des bassins océaniques, il y a des modèles à éléments finis. Mais ça, je n'en parle pas. Alors, la discrétisation à point de grille, c'est simple. On a un maillage régulier à la surface de l'atmosphère. Par exemple, le maillage représenté de façon symbolique pour cette figure, qui est une représentation schématique du modèle du laboratoire de météorologie dynamique. Je vous signale que cette figure a été faite par mon collègue Laurent Ferred du laboratoire de météorologie dynamique. Il a fait ça avec mon autre collègue Frédéric Courdin. Vous avez le maillage représenté à trois dimensions, puis vous avez des couleurs qui représentent la température. Et alors ce schéma, beaucoup de gens l'ont trouvé très bien et l'ont utilisé en particulier à quelque chose qui s'appelle la Société des mathématiques appliquées industrielles, qu'il a pris comme logo. Alors mon collègue Laurent Ferret n'a pas été très content, parce que c'était lui qui l'avait fait, mais tout le monde l'utilisait sans mentionner son nom. Alors si jamais vous l'utilisez, mentionnez le nom de Laurent Ferret. Bon, alors l'idée de... vous avez ici un maillage, bon, horizontal, bon, mais pas détaillé. Vous voulez obtenir le gradient d'une quantité phi, par exemple la géopotentielle, au point de coordonnées IJ. Vous prenez que pour l'estimation de la dérivée dφ sur dx au point IJ, vous prenez phi au point i plus 1j à droite, moins phi au point i moins 1j à gauche, divisé par 2 delta x, pour diviser par la distance entre ces points. Et puis vous faites ça pour toutes les dérivées spatiales qui apparaissent dans l'équation. Bon. Systématiquement. Alors ça, c'est un autre exemple de discrétisation à point de grille. C'est un truc de Météo France, qui d'ailleurs est un peu à gauche. Vous aviez deux modèles imbriqués. Un modèle à résolution relativement large qui était global, et puis un modèle à échelle plus fine couvrant l'Europe occidentale. Et puis les deux modèles étaient tournés en parallèle. Enfin, au moins, le modèle à échelle plus fine prenait ses conditions limites. Hein. Il faut bien qu'il y ait des conditions limites. Si une dépression arrive dans le domaine, il faut bien que le modèle à échelle fine soit prévenu, informé de l'arrivée de la dépression. Donc, il prenait ses conditions limites dans le modèle à grande échelle. Non. Alors, depuis, Météo France a changé et a utilisé maintenant un modèle à grille variable. D'ailleurs, n'est pas, enfin, il fait l'équivalent d'utiliser un modèle à grille variable, c'est-à-dire, bon, il n'y a plus de frontière entre un modèle grande échelle et un modèle d'échelle fine. Il y a une variation qui, d'ailleurs, pose aussi des problèmes. Ça peut, par exemple, créer dans le mouvement des ondes des vitesses de phase, des courbures dans la trajectoire des ondes. Enfin, ce n'est pas de tout repos d'utiliser ça. Mais enfin, c'est ce que Météo France utilise actuellement. Alors, quand on fait un modèle à point de grille, il faut faire attention à ce qu'on fait. Si on ne fait pas attention, on peut très bien introduire dans le modèle simplement une augmentation. Sous l'approximation hydrostatique, il reste dans les modèles une équation explicite pour la pression au sol, qui est la dérivée temporelle de la pression au sol, c'est l'intégrale verticale de la divergence du vent, ou plutôt de l'opposé de la divergence. Il y a convergence et augmentation de pression au sol. Bon, donc il y a une dérivée et l'intégrale spatiale de la pression au sol, c'est la masse totale de l'atmosphère. Donc si on ne fait pas attention à la manière dont on discrétise l'équation pour la pression au sol, on peut introduire dans le modèle des sources ou des puits physiques erronés, des effets de masse erronés. Bon, alors pour la pression, la masse, le danger n'est pas grand. Pour d'autres quantités, en particulier la conservation de l'énergie, il faut quand même faire attention à ne pas introduire dans le modèle des sources ou des puits erronés d'énergie qui n'ont rien de physique, mais qui sont numériques. Et pour donner un exemple précis, il y a quelques années, mon collègue Frédéric Ournant, en fait, ça fait déjà non, ça remonte quelques années, ça remonte aux années 90, je ne me trompe pas, donc pour vous, c'est très vieux, a adapté le modèle du laboratoire météorologique aux conditions de la planète Mars. Ça a très bien marché d'ailleurs, ça a donné un modèle martien qu'il utilise toujours et ça a très bien marché. Ça a fourni à Frédéric Ourdin, avec d'autres travaux, le sujet de satellite, d'excellente thèse. Et alors, après rapidement avoir commencé, il a trouvé sur Mars des choses qui manifestement étaient absurdes. Des choses. Bon. Alors. Il a précisé même d'aller fouiller l'exercice et il s'est aperçu que le modèle ne conserve pas le moment cinétique. En ce sens, si je regardais, par exemple, couronne latitudinale autour de la planète, et puis que je faisais le bilan du moment cinétique là-dedans, eh ben, le moment cinétique, il y a le flux entrant de moment cinétique, du fait de la circulation à de l'air ou autre, le flux sortant de moment cinétique, dans le sens longitudinal. Il n'y a pas de force, enfin, si on prend une couronne, ça s'annule. Donc, il n'y a pas de force dans le sens longitudinal. Donc, la variation au cours du temps le moment cinétique contenu dans cette couronne devrait être égale à la somme, au cours du temps, des flux de moment cinétique entrant, moins les flux de moment cinétique sortant. Or, ce n'était pas ça. Il y avait des sources aberrantes de moment cinétique ou des puits, qui étaient numériques, mais qui n'évidemment ne correspondaient pas à la métaphysique. Et alors, Frédéric Ourdin, il commençait tout juste à tel. Il a commencé à fouiller le modèle, il a vu ça, et il a su corriger le modèle de façon à éliminer toute source ou puits aberrant de moment cinétique. Ce qui voulait dire qu'il venait prendre un schéma de différenciation un peu plus compliqué. Donc en particulier qu'il s'entendait sur plus de points. Hein. Il y a toujours quelque chose à payer, un avantage, mais ça paye par un désavantage. Mais donc il a fait cette correction. Et j'ai trouvé après coup que cette correction faite sur la version terrestre du modèle, sur laquelle le problème n'était pas apparu de façon évidente, eh bien, améliorait le modèle terrestre. Comme quoi, en faisant tourner le modèle dans les conditions de Mars, y trouvant quelque chose qui était absurde, corrigeant cette chose, non seulement ça l'a corrigé pour Mars, mais ça l'a corrigé pour la Terre aussi. Bon. Alors, l'autre type de discrétisation, c'est la discrétisation dite spectrale ou semi-spectrale. C'est l'analogue à la surface de la sphère des transferies de Fourier dans un domaine périodique en RN. Dans un domaine périodique, par exemple à deux dimensions, dans RN, x, deux coordonnées x, y, avec une période Lx, Ly, eh bien un champ quelconque fonction des deux coordonnées x et y peut être développé en une somme, en un développement de Fourier, c'est-à-dire une somme sur tous les couples d'entités Km de l'exponentielle de Jupiter des sinus et des sinus avec nombre d'ondes Km multiplié par un coefficient FKM qui est la transformée de Fourier de la fonction f. Alors on peut faire les calculs là-dessus. Au lieu de définir un champ par ses valeurs au point x, un certain nombre de points xy, on peut définir un champ par ces coefficients de Fourier FKM. Alors, mathématiquement, ces FKM peuvent être un nombre infini. Numériquement, il faut se limiter. Alors, typiquement, on se limite à des valeurs de K variant entre un moins K et plus K, et des valeurs de petit m variant un moins grand M plus grand M. Comme ça, en ayant les paires, en ayant les positifs et les négatifs en paires, on est sûr qu'on a des imaginaires qui se compensent et on tombe bien sur un champ réel. Donc on peut faire ça, et ça se fait, il y a des tas de domaines où on a des modèles spectraux construits là-dessus. Alors, un avantage des modèles spectraux, c'est que la différenciation spatiale est exacte. Je prends la dérivée par rapport à x de ça. ce terme-là, sa dérivée par rapport à x, x apparaît dans l'exponentielle. Donc dérivé ce terme-là par rapport à x, c'est le multiplier par le coefficient de x dans l'exponentielle, c'est-à-dire le multiplier par 2i pi k sur lx. Donc là, la différenciation spatiale est exacte et triviale. Pas la peine de se fatiguer avec des schémas de différenciation discrétisés. C'est trivial. Bon, c'est un avantage. Alors, enfin, la même chose sur la sphère. Sauf que sur la sphère, ben, il n'y a pas d'exponentielle de Fourier. Mais il y a des fonctions qui ont des propriétés tout à fait similaires, qu'on appelle les harmoniques sphériques. Ce sont des fonctions mathématiques qui sont particulièrement appropriées à l'étude de problèmes à symétrie sphérique. Plus exactement, on les écrit de façon typique sous forme de fonction. Alors j'ai une fonction t, à la surface de la sphère, qui est fonction de la latitude et la longitude, et on prend le sinus de la latitude, mu, et la longitude. Le sinus de la latitude a l'avantage d'être régulier à la surface de la sphère. Quand vous passez au pôle, sinus égale 1, donc ça correspond à un maximum de mu. Vous passez de l'autre côté du pôle, bon, vous repassez par le même chemin que vous êtes venu. C'est un maximum local qui est régulier. Il n'y a pas de point anguleux, c'est agréable du point de vue mathématique. Alors, un champ peut être décrit par son développement en fonction de ces harmoniques sphériques qui sont nommées YNM, qui dépendent de deux indices entiers N et M, de même façon que les fonctions de Fourier, les harmoniques de Fourier que je montrais sur la délice précédente. Et alors, ces YNM ont une fonction. Ils sont de la forme YNM de mu et de lambda et proportionnel à PNM de mu exponentielle de IM lambda. C'est-à-dire que dans la direction longitudinale, on a des sinus et des cosinus. Et puis dans la direction latitudinale, on a cette fonction PNM qui dépend de deux indices, qui s'appelle la fonction de Legendre de deuxième espèce. Et dont je vous donne ici la formulation mathématique PNM de mu est proportionnel à 1 moins mu2 à la puissance m sur 2, la dérivée. Bon. Tout ça, ça date de. C'est vieux, ça date du 19e, ça date de Laplace, le genre, et ces gens-là. Enfin, ça date du temps de Napoléon, quoi. Et alors, les indices. Alors, les indices n, qui s'appelle le degré, prend toutes les valeurs entières positives et nulles. Et à n donné, m correspond, varie entre moins n et plus m. Alors ça donne ça. Ça, ce sont les harmoniques sphériques. Alors il y a marqué, alors, n égale 3, ou l égale 3, m égale 0. L égale 3, m égale 0. Ça veut dire que en longitude, c'est exactement, c'est constant. Pas de variation longitudinale. Et en latitude, il y a l moins m 0, 1, 3, c'est-à-dire 3 changements de signe. C'est-à-dire que les fonctions prennent les valeurs plus, moins, les fonctions de base correspondantes, prennent les valeurs plus, moins. Comme ça, comme indiqué ici. Je prends L égale 3, M égale 1. Alors M moins L égale 2. Donc M égale 1, ça veut dire qu'en longitude, il y a une période. Une période de longitude. En latitude, il y a deux cercles de cellules. Donc j'obtiens cette espèce de quatrillage avec la fonction correspondante qui prend les valeurs plus, moins ici. Puis à mesure que L et M augmentent, on obtient de plus en plus, on obtient un peu comme un quadrillage dans le plan. De sinus et cosinus avec des rectangles, des carrés, sur un damier, un peu l'équivalent d'un damier, l'équivalent d'un damier à la surface de la sphère. Avec l'avantage que c'est mathématiquement parfaitement propre, parfaitement correct. Il n'y a pas de bidouillage, c'est mathématiquement exact. Alors, ces fonctions numériques ont en particulier l'avantage que la propriété, quelles sont les fonctions propres de l'opérateur laplacien. De même que les fonctions de Fourier, si vous prenez le Laplacien de ceci, vous avez deux dérivées par rapport à x, deux dérivées par rapport à y. Donc vous multipliez par 2i pi k sur lx au carré, plus 2i pi m sur ly au carré. Donc c'est une fonction propre. Le Laplacien est multiple de la fonction de base. Même chose pour les harmoniques sphériques. Donc ils ont des propriétés agréables. En plus de ça, je vais tronquer C'est-à-dire que je ne vais pas prendre tous les couples MN. Je vais en prendre certains seulement. Et un moyen très simple, c'est de prendre tous les N inférieurs à un certain grand N et tous les petits M correspondants. Et ça revient à faire une troncation qui est indépendante du choix d'un axe polaire. Quand j'écris là, sinus, latitude, longitude, je suis obligé de choisir un axe polaire. C'est très embêtant, les axes polaires sur les sphères, parce que ça détruit la géométrie, enfin, ça force la géométrie. Mais en faisant ça, en prenant tous les n, en prenant ce qu'on appelle une trochanture triangulaire, eh bien, j'obtiens une représentation qui est indépendante du choix d'un axe polaire. Si je prends un autre axe polaire, mais les mêmes harmoniques sphériques par rapport à cet axe polaire, ce seront des combinaisons des précédents. Donc, c'est indépendant, c'est une représentation indépendante du choix d'un axe polaire et qui est homogène. Ce qui, donc, d'ailleurs, des tas de problèmes est extrêmement utile. Les harmoniques sphériques, peut-être certains d'entre vous ont-ils vu ça dans un autre tâche, mais sont utilisées en mécanique quantique, en particulier pour la description de l'atome d'hydrogène, ça s'exprime en fonction d'harmoniques sphériques, à cause de la symétrie sphérique fondamentale. Bon, alors, pour en dire un peu plus sur ces modèles spectraux, tout ce qui est opération linéaire, en particulier différenciation par rapport aux coordonnées d'espace, c'est trivial. Même la différenciation par rapport à la longitude, bon, ça ne coûte pas cher. Par contre, les produits numériques, alors là, c'est très ennuyeux parce que ça coûte très cher en harmonique sphérique. Si je veux des produits numériques, j'en ai dans les termes d'adduction du gradient de A. Je multiplie la vitesse par un champ des produits numériques. Alors ça, en harmonique sphérique, c'est très coûteux. Et alors, un truc s'est avéré extrêmement utile, c'est pour ça que ces modèles peuvent exister. Les produits numériques sont faits de l'espace physique. Donc on passe permanent de l'espace des harmoniques sphériques vers l'espace physique. Et ceci est faisable à un coût non prohibitif grâce à la technique des transformées de Fourier rapides. Bon, c'est un truc numérique qui utilise le fait que exponentielle de A multipliée par exponentielle de B, c'est égal à exponentielle de A plus B, qu'il utilise de façon appropriée et qui permet de faire tous ces calculs à un coût acceptable. Et lorsque le centre européen utilise un modèle semi-spectral, et quand le modèle semi-spectral. Bon, du coup, ces modèles s'appelaient semi-spectraux, parce qu'on passe constamment de l'espace des harmoniques sphériques, l'espace spectral, à l'espace physique. Et à l'époque où, c'est déjà assez ancien, où le centre européen a développé ce genre de modèle, ils ont observé que pour la même qualité de prévision, les calculs se faisaient plus rapidement avec un modèle spectral. Ils ont adopté un modèle, enfin, de toute façon, semi-spectral. Bon. Enfin, donc, sachez qu'il y a, pour ce qui est des modèles à point de grille, et des modèles, en particulier le modèle de LMD, un modèle à point de grille, et des modèles semi-spectraux, en particulier le modèle du Centre européen de radiques. Alors, je vous ai dit qu'une approximation importante était l'approximation hydrostatique. Alors, dans ces modèles, on fait de façon aussi presque systématiquement d'autres approximations. On suppose que l'épaisseur de l'atmosphère est négligeable au regard du rayon de la planète, du point de vue géométrique. Ça n'empêche pas d'avoir une coordonnée à l'intérieur de cette couche. C'est une couche sans épaisseur géométrique. Par exemple, deux verticales restent parallèles. L'épaisseur ne diverge pas à mesure que l'altitude augmente. Mais ça n'interdit pas d'avoir une coordonnée à l'intérieur de cette couche sans épaisseur géométrique. Et la coordonnée pression est tout à fait adaptée à ça. La composante horizontale de l'accélération de Coriolis due au mouvement vertical, il y en a une, hein, produit vectoriel, on la néglige. Et en fait, c'est nécessaire, si précisément on suppose que l'épaisseur de l'atmosphère est négligeable. Parce que si on gardait cette forme, on gardait, si on prenait une vitesse verticale physique, en quelque sorte, dans le modèle, eh bien, il y aura un problème précisément des moments cinétiques. Et les forces de marée sont négligées. Les modèles de président ne peuvent pas présenter les marées de Mont-Saint-Michel. Enfin, il y a des modèles d'océan, il y a des modèles de marée, mais les modèles actuellement de météorologie ne peuvent pas présenter les marées de Mont-Saint-Michel. Et alors, ces approximations conduisent à ce qu'on appelle les équations primitives. Le mot est trompeur. Équations primitives, ça a l'air de vouloir dire que ce sont les équations les plus générales. Non, ce ne sont pas les équations les plus générales. Elles sont fondées sur des approximations, en particulier l'approximation hydrostatique, qui n'est pas du tout mineure. Bon, mais la plupart des modèles de modèles de prévision à grande échelle, ainsi que les modèles climatiques, les modèles utilisés pour faire des prévisions, les prévisions que étudie le GIEC, sont fondées sur ces équations. Bon, alors la pression P, bon, ça c'est secondaire. C'est secondaire. Bon, comme la pression au sol varie, ces modèles-là, je le disais il y a 5 minutes, permettent les variations de la pression au sol. Donc on a bien des dépressions et des zones de haute pression à la surface de l'océan, à la surface du continent. Alors ça veut dire que dans coordonnées P, la frontière du domaine est mobile. Alors ça, c'est assez désagréable. Alors on utilise des coordonnées qui permettent d'avoir une frontière fixe et qui se rapproche de P. Bon, enfin, je ne dis pas, mais il y a des coordonnées hybrides, je dis au passant. Moi, je dis ça en passant. Alors, dans le vocabulaire des spécialistes de ce genre d'activité, on parle de la dynamique du modèle et de la physique. La dynamique, c'est tout ce que représentent, en gros, les processus réversibles. Toute la dynamique à en parler, par exemple, dans les équations de base, je reviens aux équations de base. Voilà. Alors, la dynamique, c'est, bon, les termes adiabatiques ici, dans cette équation-là, le terme de gradient de pression, la gravité, Coriolis, bon, ça, c'est la dynamique. Maintenant, on contrôle assez bien ces choses-là. Bon. Il y a encore des travaux qui sont faits, en particulier Thomas Dubos au LMD continue à travailler sur ces questions-là. Et puis il y a la physique. Alors la physique, c'est tout le reste. En particulier, c'est Q et c'est F. Tout ce qui est échange de chaleur. Alors ça, c'est pas simple. Et c'est toujours l'objet d'activité, l'objet de recherche active. Alors, donc en gros, la dynamique, ça traite les phénomènes qui sont physiquement réversibles, force de pression, force de Coriolis, advection. Oui, l'advection n'apparaissait pas explicitement sur la diapo que je viens de vous présenter, mais elle est présente, l'advection. Tandis que la physique traite tout ce qui est irréversible, en particulier le terme de cheval diamétrique K, Q, dans l'énergie de l'homme. Et aussi, oui, aussi. J'en parle, c'est tout la représentation des effets Soumaï. Un modèle a une résolution spatiale donnée. Ils ont 30 km. Il y a des tas de choses qui se passent en dessous de 30 km. Et ces choses qui se passent en dessous de 30 km ont un impact sur ce qui se passe à l'échelle plus grande. Donc on ne peut pas l'ignorer. D'autre part, on ne représente pas explicitement. Donc il faut paramétrer, c'est-à-dire mettre dans le modèle la résolution finie, des termes qui représentent l'effet, au moins statistique, de tous les phénomènes Soumaï qui ne sont pas résolus par le modèle. Et alors ça, c'est un problème majeur, hein, qui est loin d'être pleinement résolue. Et bien ça rentre dans la physique. Alors, comme je vous le disais il y a un instant, pour la partie dynamique, on a des choses qui marchent bien et plus de problèmes majeurs. Ça n'empêche pas de continuer à améliorer les schémas existants, en particulier, c'est ce que fait mon collègue Thomas Dubos au laboratoire de météorologie dynamique. Alors, pour la physique, il y a énormément de problèmes qui restent et il y en a toujours des nouveaux qui apparaissent d'ailleurs. En particulier, tout ce qui a lieu aux effets Soubaille et tout ce qui a à voir avec le cycle de l'eau, les échanges d'énergie associés, les effets radiatifs. Les nuages ont un effet radiatif important, c'est évident. Suivant qu'il y a des nuages, il n'y a pas de nuages, le rayonnement qui vient du soleil n'est pas le même, on sait bien. Mais tout ça, mais avoir une description détaillée de tout cela, par exemple les propriétés radiatives des nuages en fonction de la taille des gouttes d'eau qu'ils contiennent, c'est quelque chose de pas simple du tout et qui est loin d'être résolu. Alors j'ai ici une courbe, c'est une figure ancienne qui avait été préparée par Météo France, qui présente un peu les interactions qui étaient représentées dans un modèle à l'époque. Alors, vous avez plusieurs niveaux. Vous avez les rectangles représentent des variables dont l'évolution spatio-temporelle va être évoluée au cours du temps. Alors, il y a le vent, la température et l'humidité. L'humidité pouvant éventuellement être décomposée en trois phases. Bon, il n'y a pas là les composants secondaires autres. Maintenant, certains modèles contredisent les composants secondaires autres, en particulier les modèles qui sont utilisés pour étudier la pollution. Ben, il faut bien mettre les composants de la pollution. Ou les modèles qui sont utilisés, c'est maintenant fait assez régulièrement pour trouver une source de pollution. Bien, il faut bien qu'on puisse remonter la pollution. Alors, il y a les trois rectangles du haut, ce sont les variables dans le volume de l'atmosphère. Et puis, il y a des variables au niveau du sol, au niveau du sol. Je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant. Il y a la résistance du sol, la température du sol. Il est évident que la température du sol, ça a de l'importance sur ce qui va se passer avec l'atmosphère, dans un sens ou dans l'autre. Bon. Il y a la neige. Suivant qu'il y a de la neige d'albédo très élevée au niveau du sol, au contraire, il n'y a pas de neige. La quantité d'énergie solaire absorbée ou réfléchie ne va pas être la même. La neige, d'ailleurs, son âge compte. La neige très, très fraîche et très réfléchissante. La neige qui est là depuis 3 semaines, même si elle est toujours là, elle est nettement moins réfléchissante. Donc l'âge de la neige peut intervenir. L'humidité du sol, bien sûr. Je crois que l'humidité du sol. Et puis à l'intérieur du sol, c'est-à-dire des échanges d'humidité. Donc maintenant, il y a des modèles dans lesquels, dans le sol, il y a dans le sol plusieurs couches. Plusieurs couches pour la température et plusieurs couches pour l'humidité, qui évidemment sont liées, qui sont représentées. Alors tout ça, bon, tout ça, ça doit être représenté. Et puis, les ovales, là, les ovales, ce sont des ovales d'ellipse, ce sont les processus. Alors, je vois par exemple processus rayonnement. Ben, le rayonnement, l'humidité influe sur le rayonnement. Réciproquement, la température aussi influe sur le rayonnement et le rayonnement influe sur la température. Si une particule fluide émet du rayonnement, ben, sa température va diminuer. Et puis, la température du sol va avoir un effet sur le rayonnement, ne serait-ce que par la température du sol, émet du rayonnement. Alors, toutes ces flèches-là, c'est tous les processus qu'ils ont. Chaque processus, c'est une partie d'un modèle qui a été développé par des gens, qui a été développé, validé, mis en œuvre. Et puis, peu à peu, il y en a de plus en plus. Par exemple, on va parler ici de la rugosité du sol. La rugosité du sol, ça dépend de la nature géologique du sol, il peut être plus ou moins rugueux. Ça dépend aussi beaucoup de la végétation. Suivant qu'il y a des arbres, qu'il n'y a pas de végétation du tout, qu'il y a des arbres, qu'il y a un champ de blé ou autre chose, ça va être tout à fait différent. Et puis, la végétation, ça ne va pas agir uniquement sur la rugosité du sol, ça va influer aussi sur les échanges de température et en plus d'humidité entre l'atmosphère et la végétation échange de l'humidité. Donc il faut représenter ce échange d'humidité. Donc il faut représenter l'évolution de la température, de la végétation, l'évolution Et alors là, autant il y a des équations de base qu'on considère comme étant vraiment les équations de base exactes pour la dynamique, pour la force de Coriolis ou la force de pression, pour ce qui est des échanges entre la végétation et l'atmosphère, les échanges d'eau, comment telle ou telle plante réagit suivant la température, l'humidité extérieure, est-ce qu'elle conserve son humidité ou est-ce qu'au contraire elle la libère, tout ça, c'est à prendre en compte. Il y a constamment des nouveaux problèmes. Le nom, l'humidité, les précipitations, je vois le phénomène de précipitation. La précipitation affecte évidemment l'humidité du sol. Mais l'eau qui précipite, elle ne reste pas forcément à l'endroit où elle est tombée. Un ruissellement, elle peut descendre plus loin. Ou est-ce qu'elle est? Il faut le savoir. Et ce n'est même pas seulement en surface, c'est même à l'intérieur du sol. Il peut y avoir des régions karstiques où l'eau circule à l'intérieur du sol sur de grandes distances. Ça, peu à peu, ces choses-là sont introduites dans les modèles. Ils n'étaient évidemment pas dans les tout premiers modèles, mais maintenant on les introduit. Donc ça fait de plus en plus constamment. Il y a constamment de nouvelles choses à introduire dans les modèles. C'est une course sans fin. C'est une course sans fin. Bon, ben je vois qu'il est déjà 2h26, donc il est temps que j'arrête. Bon, je n'ai pas parlé, j'en parlerai brièvement la fois prochaine, de la discrétisation temporelle. Il ne faut pas seulement discrétiser les modèles dans l'espace. Il faut aussi les discrétiser dans le temps et avancer en dépendant le temps successif. Si on ne s'y prend pas, si on ne fait pas attention, il peut se produire là, il peut se produire n'importe quoi, en particulier des instabilités, des trucs qui amplifient, des instabilités numériques, des choses qui s'amplifient pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la physique, mais avec la manière dont on a écrit la discrétisation temporelle. Donc, c'est des choses qui prennent en compte et dont je vous parlerai la prochaine fois, mais pas aujourd'hui. Alors, la prochaine fois. Prochain cours, vendredi 11 avril. Même salle, même heure. Alors, je pense que je vais vous mettre mon cours. Je pense que je vais même pouvoir vous l'envoyer en pièce jointe directement dans le courrier électronique. De toute façon, je vais le mettre en ligne. Et puis, l'enregistrement, ben, j'espère aussi que je pourrai le mettre en ligne. C'est-à-dire que vous pourrez, si l'homme, écouter l'enregistrement. Y a-t-il des questions à ce stade-là? Bon, donc, s'il n'y a pas de questions, c'est terminé pour aujourd'hui. Prochain cours, de vendredi en 8, 10 heures, dans cette salle.